5.
Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
The entire country can benefit from selling directly to the growing market middle class in China in the coming years. The big challenge is always red tape and piercing into being able to develop successful market access into China.
Les chefs. Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Alors, c'était le 25 septembre, c'est bien ça, hein? Bonjour, Alec.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Alors, Alec, c'était Justin Trudeau qui disait, en résumé...
C'est lors du passage du grand patron de Alibaba, qui est comme l'énorme entreprise chinoise là, en ligne, qui était de passage au Canada, puis M. Ma. Et là, Justin Trudeau soulignait à quel point c'était important de renforcer les liens avec la Chine, puisque c'était évidemment un territoire avec 1,3 milliard de consommateurs potentiels et que c'était bon pour les entreprises canadiennes. Donc, il résumait un peu à quel point on devait tisser des liens plus serrés avec l'Empire du milieu.
Alors, vous aurez compris, les auditeurs, qu'on vient d'entamer la discussion sur la politique québécoise et canadienne. Continue sur ta lancée, mon cher Alec, parce que là, c'est le National Post qui le sortait.
En fin de semaine.
À l'effet que Justin Trudeau veut lancer des négociations de libre-échange avec la Chine et il le fera lors d'une visite officielle.
Oui, au début du mois de décembre, dit-on. On avait déjà parlé, toi et moi, ici, en mois d'octobre, d'une possibilité qu'il se rende en Chine en novembre.
Ouais.
On s'était fait dire non, c'est pas prêt encore, tout n'est pas attaché.
Ouais.
Ben, on comprend que si tu veux lancer des pourparlers d'accords de libre-échange avec la Chine, t'es mieux d'attacher tes ficelles comme il faut. Alors peut-être que ça a pris un peu plus de temps avant qu'on puisse confirmer le voyage de Justin Trudeau, qui n'est toujours pas confirmé d'ailleurs.
C'est
toujours ce que le National Post a dit, mais on n'a pas confirmé officiellement qu'il s'y rendrait.
Rappelle-toi, c'est un patron de Bombardier qui était en visite en Chine, qui avait comme dit,
On pourrait annoncer des ventes d'avions en même temps que la visite du premier ministre canadien. Et là, tout le monde s'était dit, quelle visite du premier ministre canadien?
Exactement.
Donc, c'était à ce moment-là, effectivement. Donc, écoute, Stephen Harper, dans les dernières années, a pensé très fortement à lancer officiellement des pourparlers de libre-échange avec la Chine, mais il y a renoncé officiellement en 2012, estimant qu'il y avait trop de risques politiques à commencer ce type de négociation-là avec la Chine pour des raisons très importante de disparité entre les deux pays en matière de droits de la personne, évidemment, des normes du travail, des normes environnementales. Il trouvait que politiquement, là, c'était risqué de commencer à discuter avec la Chine, donc il avait enterré ça. Mais Justin Trudeau, en revenant au pouvoir, a réinitié ces pourparlers-là informels. Est-ce que oui ou non, vous voudriez qu'on commence à négocier un accord de libre-échange? Et paraît-il que le premier intéressé, c'est le président chinois, là,
Xi Jinping.
Exactement, et mon mandarin n'est pas aussi bon que celui de Loïc, là, mais le tien n'est pas pire.
Oui, c'est à force d'écouter Loïc le prononcer.
C'est ça.
Xi Jinping.
Exactement. Et lui, il fait un peu comme Trudeau. Hein. Sur la plupart des tribunes auxquelles il a accès, il vante le libre-échange, les accords économiques. Évidemment, avec le repli des États-Unis qui sont de plus en plus protectionnistes, la Chine veut se montrer comme étant une nouvelle puissance internationale. Donc, ça ferait bien leur affaire de négocier quelque chose avec le Canada. Puis au Canada, on voudrait évidemment diversifier les exportations canadiennes. C'est assez évident. On le dit depuis tellement d'années, c'est difficile à faire puisque les États-Unis représentent un tellement gros marché tout près de nos frontières, mais on voudrait envoyer le message peut-être aux États-Unis qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut développer d'autres marchés. Évidemment, actuellement, c'est une balance commerciale qui est très déficitaire. On exporte pour 20 milliards de dollars par année en Chine, on en importe pour 62 milliards, donc trois fois plus. On comprend les Chinois de vouloir avoir un accès avec moins de tarifs au Canada avec ce type d'exportation-là. Puis l'Australie a déjà signé un accord de libre-échange avec la Chine qui est en cours d'implantation. Donc, on n'est pas le seul pays à s'y intéresser.
Qu'on sait si les États-Unis, eux autres, sont intéressés à négocier une entente de libre-échange? C'est pas sur la table.
C'est pas sur leur écran radar. Non. On est plus du côté américain. Là, on est plus en confrontation avec la Chine que pour l'instant est en train de négocier quoi que ce soit. Donald Trump, les accords de libre-échange, pas trop son bague, hein, présentement.
Mais c'est un méchant.
Je sais pas
message.
Ce qu'il fait dire ça.
je sais pas ce qu'il te fait dire. Deux, trois sources bien placées dans médias américains. On les voit.
Mais quel message, hein, au moment où on ne sait pas trop si l'ALENA va se rendre jusqu'au jour de l'an?
Il y a un pari là-dedans. Il y a un pari de dire... on peut brusquer les Américains en leur disant qu'effectivement, on négocie avec la Chine, qui n'est pas un pays avec qui ils s'entendent très bien. En même temps, ça envoie aussi le message que si l'ALENA tombe, on cherche d'autres sources éventuelles
d'exportation. On est sur le plan B.
Ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait automatiquement. Tu lances des pourparlers qui peuvent prendre des années. Toutes sortes de choses peuvent se produire. Parce que je parlais des risques tout à l'heure. Stephen Harper avait évalué ça puis avait dit « moi, je ne vais pas là-dedans ». ils sont encore là, ces risques-là, ces risques politiques-là. D'abord, le Canada dit qu'il souhaite des accords progressistes. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a signé l'entente avec l'Union européenne. C'est ce qu'il dit dans la négociation actuelle avec l'ALENA. Donc, on veut davantage de normes pour les travailleurs, plus de règles environnementales, de meilleurs salaires, plus de facilités, par exemple, pour les travailleurs de se syndiquer. On souhaite qu'il y ait des chapitres sur l'égalité homme-femme, par exemple. Bref, tout ça, les règles de droit pour les entreprises, pour qu'on soit devant des tribunaux qui soient impartiaux, tout ça avec la Chine n'est pas nécessairement facile à négocier. Là.
On s'entend.
Hein? Des normes pour les travailleurs.
Dans le fond, c'est des
droits de la personne, des tribunaux.
Des tribunaux d'association.
Ben oui, qui soient équitables, etc. Donc, c'est pas fait, là. C'est pas évident à faire. Puis au Canada, il y a de l'opposition très, très forte. Négocier avec l'Europe, les États-Unis, des pays qui nous ressemblent, ça va. Mais là, les syndicats sont très opposés à ce qu'on ait un accord de libre-échange avec la Chine, étant donné les salaires là-bas et les normes du travail très, très différentes de celles du Canada. Notamment la puissante industrie automobile, qui en Ontario, le syndicat de l'industrie automobile est très, très fort. Parti conservateur, NPD aussi sont contre.
Le
Parti conservateur est contre, officiellement, depuis qu'Harper l'a abandonné, puis Andrew Scheer l'a répété récemment. Lui, il trouve qu'il y a trop de risques. Ouais, les normes des travailleurs, les règles de droit, les droits humains.
Dans le fond, nivellement vers le bas, hein, c'est ça.
Exact. Donc, là, t'as la NPD puis les conservateurs, à droite et à gauche, qui vont peut-être se battre contre le gouvernement Trudeau sur cet accord-là. Les syndicats, oui, le milieu patronal est plutôt en faveur, mais bref, c'est pas facile à faire.
Mais on s'entend que les Chinois, ce qu'ils veulent, notamment, c'est avoir accès à nos ressources naturelles. Là. Oui. Dans un deal comme celui-là, c'est bien clair que
le
pour
pétrole,
eux autres,
entre autres, et toute l'industrie agroalimentaire.
La potasse, oui, effectivement.
Nos mines aussi, évidemment.
Oui, ben oui.
Puis l'industrie agroalimentaire, c'est un pays qui a de la difficulté à se nourrir lui-même. Ils sont rendus 1,3 milliard. Donc là, t'as toute une industrie du blé, entre autres, qui pourrait exporter davantage. On a donc...
Mais veut, veut pas, ça passe aussi, je pense, par l'acceptation, dans une éventuelle entente, que des intérêts chinois pourraient devenir propriétaires de mines chez nous, pourraient devenir propriétaires... Tu sais, qu'il faut accepter à ce moment-là que des sociétés chinoises, qui sont souvent des sociétés d'État...
Oui, très souvent. Oui.
...viennent investir et viennent exploiter nos ressources
Et c'est déjà controversé. Dans certaines branches, là, je pense aux nouvelles technologies, entre autres, quand les Chinois investissent ici, t'as toujours des drapeaux rouges qui se lèvent en disant ben, il y a de l'espionnage industriel hein, qui se produit. Propriété intellectuelle n'est pas aussi bien défendue en Chine qu'elle ne l'est ici. Donc, intéressant aussi, sondage Abacus cet été qui avait testé auprès des Canadiens à quel point ils seraient d'accord avec un éventuel accord de libre-échange avec la Chine. C'était très partagé, hein, c'était 50-50. Pile dans le milieu. 50 % des Canadiens disaient c'est une bonne idée, 50 % disaient c'est une mauvaise idée. Oui, tu avais une majorité de Canadiens qui disent qu'il faut avoir de bonnes relations avec la Chine, mais quand tu creusais le sondage, tu voyais tout de suite les doutes apparaître. Là. Tu voyais que 74 % des Canadiens ont une opinion négative du gouvernement chinois. Donc ça va être aussi à faire accepter du côté de Trudeau. Il y a seulement 30 % des Canadiens qui veulent une relation plus étroite avec la Chine. Il y en a presque autant qui disent qu'au contraire, on devrait s'éloigner de ce pays-là. Ça va être une...
C'est
pas facile, là. On comprend que là, il va ouvrir des discussions si ça se produit. On a donc beaucoup de temps pour négocier, mais la bataille politique va commencer à s'enclencher assez rapidement sur... Est-ce que c'est un si bon deal que ça? Va être très intéressant.
Puis t'as pas juste l'ALENA dans le portrait, t'as le partenariat transpacifique aussi, qui est un autre traité de libre-échange qui exclut la Chine.
Exactement.
D'ailleurs, ça a été conçu un peu pour faire contrepoids au pouvoir émergent de la Chine. Le Japon est là-dedans et tout le reste.
Ouais.
Dans le Canada, dans le fond, on doit, d'une certaine façon, à un moment donné, il va avoir une espèce de choix, là. Est-ce qu'on prend la piste nord-américaine avec l'ALENA? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on prend la piste pan-pacifique sans la Chine? Ou est-ce qu'on prend la piste chinoise?
Ou est-ce qu'on essaie de manger à tous les râteliers et qu'on essaie d'avoir toutes ces ententes-là? Écoute, ils vont pas tous aboutir au même moment, là, s'entend.
Non.
L'ALENA reste prioritaire. Ensuite, le partenariat transpacifique est beaucoup plus avancé.
Exact.
Et là, on commence quelque chose avec la Chine. Mais juste l'idée d'avoir quelque chose d'aussi important avec la Chine fait frémir certains milieux. C'est pour ça que je t'en parle. Ça va être, c'est pas facile comme positionnement politique à venir. Là. Ça va être intéressant à suivre.
Très intéressant, effectivement. Antoine, parlons de cette mise à jour de demain. Hein, oui. Carlos Leitao, le ministre des Finances, qui demain va nous annoncer des baisses d'impôts. Hein. Il a déjà vendu la mèche.
C'est extrêmement important pour le gouvernement, cette mise à jour économique. Moi, je pense même que c'est plus important que le remaniement, parce que l'économie va bien. Le gouvernement le répète, le martèle, il va pouvoir dire c'est dans notre bilan. Mais ils savent très bien que les gens ne votent pas sur le bilan, mais sur l'avenir.
C'est sûr. Hein?
Qu'un gouvernement, là, on se souvient de Jean Charest, c'était en 2007 qu'il avait fait campagne sur son bilan. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Donc, sur l'avenir, ben, quand tu promets des baisses d'impôts, là, tu te projettes dans l'avenir. Donc, c'est très important pour le gouvernement. Et comme tu l'as dit, la grosse nouvelle est déjà éventée. Ça a été fait sur Facebook la semaine passée par le premier ministre lui-même et son chef et son ministre des Finances.
Mais c'est arrivé le jour où est sortie la nouvelle de du fameux party ou des parties chez Marc Bibeau. Hein,
ça n'a aucun rapport.
Évidemment que ça n'a aucun rapport. Tu ne pouvais pas savoir.
Non, mais
ça n'a aucun rapport, mais ça a complètement bousillé leur nouvelle.
Ben oui,
c'est écoute, sûr. Écoute, ils s'en vont sur Facebook pour annoncer des baisses d'impôts au même moment. Il y a cette nouvelle des parties de maillage entre les firmes de génie
oui.
et
il y en a un qui a été annulé d'ailleurs dans
Conseil des ministres
dans Laval
oui.
un qui était projeté un party de réseautage
oui.
où Dominique Anglade et Saul Polo un député libéral
oui.
et une ministre libérale dans Laval des Rapides était censé faire un party de réseautage. Finalement, nous on s'est mis à poser des questions là-dessus vendredi, puis ça a été annulé.
Oui. Mais apparemment, c'est des bénévoles trop enthousiastes qui ont publicisé cette expression ou ce concept de réseautage. C'était pas approuvé
par
le
politique. Et quand on a appelé le restaurant où ça devait avoir lieu, ils savaient pas encore que ça avait été annulé. En tout cas,
bon.
Tout ça pour dire ça s'est passé vendredi.
Oui.
Mais pour revenir à la mise à jour économique, donc c'est sur Facebook que ça s'est fait la semaine passée. Et c'est sur Facebook aujourd'hui encore que M. Leitao écrit un petit blog où on a quelques indications supplémentaires sur ce qui va nous être annoncé demain. Moi, je l'ai taquiné d'ailleurs la semaine passée, M. Leitao, quand on est entré à la conférence de presse où justement il devait commenter tout ça. Et je lui ai dit, vous avez fait ça sur Facebook, vous savez, c'est une multinationale étrangère. Hein? Et là, il avait dit, ah oui, vous avez raison. Surtout, je tenais à le souligner en cette journée où il y a des médias écrits qui disent que ça va mal pour eux au Canada. Mais
visiblement, tu ne l'as pas tout à fait convaincu parce qu'il revient à la charge sur Facebook
ça,
aujourd'hui.
Sur Facebook,
oui.
Où il nous dit, bon, il nous rappelle que le gouvernement Couillard s'est engagé à faire tout ça en mesure, pour être en mesure d'améliorer nos services publics, un financement plus important et plus durable et alléger le fardeau fiscal. Qui demeure, là, il insiste là-dessus, un des plus élevés en Amérique du Nord. Donc, on s'en va vers une baisse au moins des impôts. Il n'est pas question de financer aussi nos services publics sur notre dette, ni de se payer des baisses d'impôts en laissant la facture à nos enfants.
Donc, ça veut dire que la contribution au Fonds des générations va être maintenue. Il n'est pas question,
c'est ça.
Hein, on comprend.
Exactement. On lit entre les lignes. Et moi, je pense qu'un des mots-clés demain, ça va être le mot équilibre. Il dit il est idéologique, voire dépassé, de vouloir opposer systématiquement le financement de nos services publics, la baisse d'impôts, les baisses d'impôts et le contrôle de la dette. Pourquoi s'obliger à faire le choix si nous pouvons faire les trois? Tout est une question de moyens et d'équilibre. Alors, ça va être le positionnement du gouvernement. Nous, on est équilibrés puis on peut travailler sur plusieurs fronts en même temps.
Ça me rappelle, j'étais à Ottawa comme correspondant quand Paul Martin avait fait l'équilibre et le mot-clé, l'expression qui revenait constamment dans la bouche de Jean Chrétien, c'était l'approche équilibrée.
C'est ça.
C'était l'approche équilibrée. Mais ça ressemble à ça. Hein?
Oui, ils vont essayer de se positionner entre la CAQ qui est très baisse d'impôts et le PQ qui est très service public.
C'est ça.
En disant, nous, on est capable de faire les deux.
Pas de baisse d'impôts, surtout. Hein,
c'est ça. PQ, hein? Pas de baisse d'impôts. Exactement. On va s'arrêter parce qu'on a plein d'autres choses à discuter. Puis il faut se garder du temps pour en parler dans un instant. Les auditeurs, restez avec nous. Alors, de retour donc à notre discussion politique quotidienne avec Alec Castonguay et Antoine Robitaille. Alec, Justin Trudeau va présenter officiellement des excuses à la communauté LGBT.
Oui.
Ça va se passer mardi prochain. Ça va être très solennel. Résume-nous ça.
Oui, parce qu'à partir des années 50, le gouvernement fédéral, en prenant prétexte de la sécurité nationale, a fait une chasse presque aux sorcières, on peut dire, là, contre la communauté gay à l'époque, autant chez les fonctionnaires fédéraux que chez les soldats, les agents de la GRC. Bref, tout ce qui était fédéral à l'époque, on tentait de débusquer le gay et de le mettre à la porte, carrément, et donc pour leur orientation sexuelle, disant qu'ils sont pas fiables. Donc, on essayait de trouver une manière de prouver qu'on peut pas leur faire confiance. Puis bref, ça s'est terminé quand même assez tard. Hein. Jusqu'à la fin des années 80, il y en a qui ont perdu leur emploi, même si c'était plus criminel d'être gay au pays. Il y avait encore des gens qui perdaient leur emploi pour cette raison-là. Donc, ça fait longtemps que la communauté demande des excuses officielles du gouvernement. Elles vont venir la semaine prochaine. Généralement, qui dit excuses officielles dit aussi montant de dédommagement pour les torts subis. Ça, c'est un peu le mystère, par
exemple.
Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas combien de milliers de Canadiens ont été au fil des années persécutés comme ça. Donc, c'est difficile d'évaluer un montant. Je sais qu'il y a des recours judiciaires aussi qui sont en cours. Donc, à quel point on va...
Je pense qu'ils se font un petit peu forcer la main aussi.
À quel point on va attendre de voir ça pour ensuite déterminer le montant. Je pense que ça va se faire en deux temps, à moins qu'ils nous annoncent une surprise mardi prochain qui est déjà un montant. Moi, j'en doute. Mais au moins, les excuses vont être faites du côté du gouvernement fédéral. Il faudra voir ensuite s'il y a des montants qui sont attachés à ces excuses-là.
Absolument. Ça va être. Mais c'est une très bonne chose, je pense.
Regarde, Denis Coderre avait fait la même chose, souviens-toi, l'été passé, avec les rafles des services de police dans les bars gays clandestins de l'époque. La ville de Montréal s'est excusée officiellement. On est dans ce processus-là.
Moi, je dois dire, a priori, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, ben là, il y a eu la communauté japonaise, il y a eu la communauté.
Il y a eu les Autochtones, les Premières Nations, les pensionnats, entre
c'est
autres.
C'est ça. Puis je le sais parce que je l'entends autour de moi, puis je pense qu'il ne faut pas être, gêné de l'aborder de face, de front. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, bon, ben là, après les gays, ça va être qui, puis tout ça, etc., etc. Il y a cette réaction-là, mais je vais te dire, quand tu prends connaissance des faits, puis que tu te rends compte que, écoute, dans les années 80 puis 90, tu avais encore des gens là, qui se retrouvaient soit plafonnés dans leur travail, soit carrément mis à la porte, parce que ils avaient échoué le test anti-gay, là. Écoute, dans les années 70, j'en parlais ce matin dans Paul Arcan. Écoute, il y avait une espèce de détecteur de mensonges. Si t'avais surpris dans... Comment?
À fruit, là.
Oui, la fruit machine. La fruit machine, là, parce que c'était le mot péjoratif.
Fruit salad, hein?
Oui, qui visait à dénigrer quelqu'un qui était gay. On disait « he's a fruit ». Alors, la fruit machine, on l'assoyait dans une salle puis on y montrait des photos. Puis, dépendamment de sa réaction physique, on décidait s'il était gay ou pas.
Incroyable, quand même.
On est dans les années 70, là.
Oh oui, non, c'est pas le début du siècle.
Bon, fait que...
À propos des années 70, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un tweet tantôt, c'est-à-dire qui a mis quelque chose sur Twitter où j'étais étiqueté. Il dit, est-ce que ça a déjà été fait aux 500 personnes, c'est-à-dire s'excuser officiellement, arrêtées sans raison en octobre 70?
Je pense pas.
Non, pas à ma connaissance.
Non, je pense pas. Puis c'est un très bon point, Antoine.
Quand on s'excuse, ben oui.
C'est un très bon point.
Quand on s'excuse à une catégorie aussi, là, il peut y avoir plusieurs demandes parce que le passé est
rempli d'injustices.
Est chargé. C'est sûr, absolument.
Le présent aussi, remarque, mais...
Oui, mais c'est ça. Les injustices du présent sont les réclamations d'excuses du futur. Hein, c'est ça.
C'est bien dit.
Bon. C'est poétique,
alors,
presque.
Presque poétique. Antoine, passons à ces propos étonnants d'une juge. Hein?
Écoute, c'est la juge Lucie Rondeau qui a donné une entrevue au Devoir et ses propos sont assez surprenants dans le contexte où de l'arrestation du député Guy Ouellet, où on a parlé beaucoup de rapports entre les branches de l'État, législatif, exécutif, judiciaire. Moi, je pense qu'il y en a un quatrième, les médias. Puis justement, cette quatrième branche-là est touchée par les propos de Lucie Rondeau parce qu'elle dit... que les journalistes ont induit la population en erreur sur la conduite des juges de paix dans la foulée de l'affaire Lagacé, où on a révélé justement qu'il y a des journalistes qui avaient été dont la liste des appels avait été épiée par les policiers avec la permission des juges de paix.
Oui.
Et ces juges de paix-là, dans la foulée de cette affaire-là, il y a plusieurs personnes qui ont dit les juges de paix, c'est des petits juges qui mettent juste leur étampe sur la décision. Alors là, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, donne une entrevue au Devoir et elle dit, bon, Les journalistes ont induit la population en erreur. Les juges de paix ont été victimes d'un traitement injuste. Et elle va même jusqu'à dire que les policiers ont probablement trompé les juges de paix. C'est incroyable. Et on se demande où est le devoir de réserve de la juge en chef. Il y a dans ses propos une espèce de mépris à l'égard de la commission Chamberlain qui porte justement là-dessus, qui n'a pas encore livré son rapport, des journalistes évidemment, et des parlementaires, parce qu'imagine-toi donc, elle dit aussi, ben, quant à la loi sur la protection des sources qui vient d'être adoptée à Ottawa, ben, les parlementaires ont fait leur choix, là, mais c'est très exagéré, cette idée-là de protection des sources. Les sources journalistiques. Alors, je me demande si ça ne commanderait pas au moins un rappel de la part de la ministre de la Justice. On verra si elle aussi va peut-être sortir d'une sorte de réserve.
Intéressant, très intéressant. Justement, parlant de la presse, on va parler, en terminant, de cette demande qui a été formulée par une coalition de plusieurs personnalités et organismes pour que... c'est le gouvernement fédéral qui est interpellé, mais dans les faits, c'est les deux niveaux de gouvernement.
Oui, mais comme Québec a mis un peu d'argent dans son dernier budget pour aider les médias écrits à faire un virage numérique, la nouvelle cible, c'est Ottawa. Okay. Mais donc, il y avait une conférence de presse ce matin dans les locaux de la CSN, parce que c'est eux qui pilotent un peu le projet, même si effectivement, il y a beaucoup de personnalités publiques, ex-politiciens, hommes d'affaires, qui signent les lettres ouvertes dans les journaux ce matin, qui font partie de cette coalition-là. Juste faire une petite parenthèse, là. En toute transparence, là, moi, je suis un journaliste de la presse écrite, Antoine aussi, donc on a toujours un petit malaise là, à parler de notre propre profession, mais on faut le faire parce que c'est dans le débat public, parce qu'Ottawa est interpellé, donc c'est normal que j'en discute. Et en plus, c'est que moi, mon propriétaire de l'actualité, Alexandre Taillefer, est signataire de cette lettre-là. Donc, je vous le dis, là, je fais attention, je ne suis pas en mission commandée, il ne m'a pas envoyé ici, c'est d'ailleurs toi qui m'as suggéré d'en parler, donc je vais juste le dire, le petit malaise est là, mais le débat existe. Donc, alors, on avait ce matin cette coalition-là qui réclame un soutien temporaire des salles de rédaction le temps que le virage numérique se fasse et qu'on trouve les nouveaux moyens de financement, donc qu'on finance par des crédits d'impôt sur la masse salariale des salles de rédaction, ce virage-là. Donc, on encourage les salles de rédaction à se doter de journalistes professionnels. On sait qu'il y a quand même 43 % des salles de rédaction qui ont perdu leur emploi entre 2009 et 2015. Là, presque un employé sur deux a disparu là, depuis maintenant quelques années dans les salles de rédaction.
On peut-tu dire un journaliste sur deux?
Pas tout à peut-être fait, pas, parce qu'il y a aussi des graphistes, il y a aussi des gens qui travaillent à la recherche, mais du moins les employés de salles de rédaction au sens large, là, on en a perdu presque un employé sur deux depuis 2009. Donc, une saignée très importante. Puis évidemment, bon, la presse écrite fait partie des piliers de la démocratie. C'est souvent sur leur travail que les enquêtes se font, qu'on réussit à avoir des débats publics éclairés. Mm-hmm. Donc, la coalition réclame une aide du fédéral qui, jusqu'à présent, se fait pas mal tirer l'oreille. Hein? Moi, j'ai écouté là, ce que dit Mélanie Joly depuis qu'un fameux rapport a été déposé en juin dernier là, dans un comité parlementaire.
Mais si je comprends bien, un crédit d'impôt sur la masse salariale, ça voudrait dire que, par exemple, si tu engages telle ou telle personne pour s'occuper du virage numérique, tu pourrais, dans le fond, le salaire que tu payes serait déduit de tes impôts. En partie, du moins.
Mettons
que tu y donnes, mettons, on jase, 50 000 $ à cette personne-là. Bon, ben, mettons qu'il y a
une partie de ce salaire-là
qui est un crédit d'impôt.
C'est ça. Ben, comme ça se fait dans d'autres industries, le multimédia profite de beaucoup de crédits d'impôt sur leur masse salariale. Il y a des emplois qui sont subventionnés à hauteur jusqu'à 37 % de chacun des emplois. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit jusque-là qu'on veut y aller, mais on veut dire l'argent que vous donneriez au gouvernement fédéral serait directement utilisé dans les salles de rédaction pour ne pas, justement, qu'on utilise cet argent-là à d'autres bénéfices. On veut dire que c'est pour le journalisme professionnel qu'on utiliserait l'argent d'Ottawa. Mais comme je te dis, Ottawa, pour l'instant, n'a pas montré de grande ouverture. Là, en juin, il y avait un rapport unanime d'un comité parlementaire à Ottawa, donc de tous les partis, incluant des libéraux, qui disaient qu'il faut faire quelque chose. C'est
mais
vraiment
joli.
Ils veulent faire quelque chose en théorie, mais on sent qu'ils sont très, très réticents à le faire. Je peux te faire entendre un court extrait de Vincent Marissal, notre ancien collègue chroniqueur, qui est aujourd'hui maintenant
consultant
pour la firme Tact Intelligence Conseil, qui fait donc des relations gouvernementales, des relations publiques, et qu'on a mandaté pour faire, entre autres, les représentations, parce qu'il connaît bien le milieu, hein, il a été journaliste jusqu'à récemment. Donc, on peut entendre ce matin, donc, à la conférence de presse, il expliquait grosso modo pourquoi c'est important d'avoir des salles de rédaction avec des journalistes professionnels.
Les journalistes sont des gens qui sont formés pour faire ce travail. Ils fonctionnent dans des salles de rédaction professionnelles, avec des cadres professionnels. Ils ont un code d'éthique à respecter. Et c'est le meilleur antidote et c'est le rempart contre ce qu'on appelle là, maintenant les fake news.
En effet. C'est un fait, mais c'est un vaste débat. Un jour, on ouvrira les lignes, les auditeurs, parce que je sais que certains d'entre vous et certaines, vous avez une opinion là-dessus. Puis je pense que c'est pas nécessairement consensuel. Ben, je dirais qu'il y a du positif, mais il y en a d'autres qui, pour avoir déjà fait cet exercice-là, là, l'année passée, là, je vais dire, il y a des auditeurs qui c'est genre, ben là, on n'est quand même pas pour commencer à payer le salaire des journalistes, puis si on le fait pour les journalistes, pourquoi pas les autres? Il y a un débat, il y a un vrai débat.
Puis même au sein de la profession, on veut garder l'indépendance journalistique, donc on faut trouver une manière de que ce financement-là ne fasse pas en sorte que les journalistes deviennent plus... gentil envers les pouvoirs publics.
Complaisant.
Bon,
ouais, c'est ça.
Moi, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais c'est vrai que l'apparence peut être là, donc il faut faire attention à ça aussi. Ça fait partie du débat.
Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Alec Castonguet, chef du bureau
équilibre.
Politique.
Équilibre, ça va être le mot-clé de demain.
Je le sais, Antoine, j'ai fait par exprès, espèce de crapaud. Alec, donc, du magazine L'Actualité, Antoine, qui m'a déstabilisé, mesdames et messieurs. Vous avez vu, vous êtes témoins, là. C'est une attitude crapaud-est.
Oh!
Oh! Le mot du jour!
La liberté, n'oublie pas!
Vite, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal, faut s'en aller à la pause avant qu'il parle. Bye!